Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui dresse le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques, un partage de textes personnels et en fin d'émission, une bribe de phrases marquantes entendues dans l'entourage de l'invité ou l'espace public. Pour cet épisode du mois de juin qui clôt la saison 5, je suis super heureuse de recevoir Marie. Salut Marie.
Salut Louisa. Moi aussi, je suis super heureuse d'être là.
Certains et certaines auditrices vont sûrement reconnaître ta voix puisque tu es la productrice radio de l'émission Le Book Club sur France Culture, qu'on retrouve tous les jours à 15h en direct. Et je précise que je suis d'autant plus émue de te recevoir puisque c'est toi qui m'as donné envie de faire de la radio et qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble dans ton ancienne émission Par les temps qui courent. J'écris une thèse aussi sur les entretiens de radio et tes émissions font partie de mon corpus, donc c'est quand même exceptionnel de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci pour l'invitation.
Alors, est-ce que tu peux nous dire si, en parallèle de la radio, tu as des passions, des hobbies, d'autres pratiques artistiques que tu fais dans la vie?
J'écris des livres. Ça fait partie de ma vie au même titre que la radio, même si ça n'occupe pas du tout la même place temporelle. Mais j'ai toujours écrit. On va dire que c'est un toujours qui peut remonter vraiment à l'enfance ou à la petite adolescence. Dans mon dernier livre, Officier Radio, je fais l'hypothèse que ça remonte à mes 11 ans, mais voilà, j'ai pas de preuves. En tout cas, j'ai toujours eu le goût de l'écriture et j'ai la chance d'être publiée par une très belle maison qui s'appelle Sabine Vespizer Éditeur. J'ai publié 6 livres. Donc on va dire que ça, c'est une pratique artistique qui est historique, qui est tout à fait concomitante avec ma pratique de la radio. Je danse autant que possible. C'est une pratique amateur, mais elle est assez importante dans ma vie. On y reviendra, je pense, parce que ça se ressent dans les choix artistiques que j'ai décidé de partager avec toi et puis avec les auditoristes de ton émission. C'est marrant parce que quand tu as posé la question, je me suis dit, le truc qui m'est venu immédiatement, c'est j'élève deux filles. Peut-être que plus ça va et plus j'ai réussi à en jouir comme d'un art, enfin, tu vois, avec toutes les contraintes que ça peut engager d'un point de vue du temps, de la fatigue et tout, mais aussi de la joie, de l'invention, en fait, que c'est aussi d'élever des enfants tous les jours, singulièrement, peut-être des filles, peut-être ces deux-là, quoi. Ça me fait plaisir l'idée d'y avoir pensé quand tu as parlé de pratique artistique, que la parentalité, ça puisse aussi en faire partie.
Ça m'étonne pas du tout de toi, te connaissant un petit peu. On commence tout de suite avec ton choix d'artiste. Comme chaque mois, la première étape de l'émission, c'est le choix d'un ou une artiste qui, toi, te touche particulièrement, pour plein de raisons peut-être. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne ?
Oui, donc il s'agit d'une danseuse, pédagogue, chorégraphe qui s'appelle Elsa Voliaston et qui venait juste de mourir quand tu m'as posé la question. Elsa, elle est morte en mars 2026. Elle est née en Jamaïque et elle est morte à Paris, donc. Et moi, j'ai rencontré l'enseignement d'Elsa il y a à peu près 12-13 ans. 12 ans. Elle avait un studio à l'époque qui s'appelait One Step, près de la place de la République à Paris. J'y suis allée conseillée par une très très bonne amie. On a découvert, puis moi je suis plus jamais repartie, quoi. J'ai vraiment trouvé dans cet endroit, dans ce studio, dans l'enseignement d'Elsa, quelque chose qui me correspondait, qui m'a rebranchée très fort avec la danse, que moi j'ai beaucoup pratiquée dans l'enfance et dans l'adolescence. Puis il y a eu un moment donné où j'ai plus fait de danse, enfin j'ai pas trouvé de maison, quoi, tu vois. J'ai un peu à la fac, j'ai un peu fait de danse contemporaine, puis ça s'est arrêté. Vraiment, c'était les retrouvailles avec la danse, avec Elsa Voliaston. Et je précise qu'elle était pédagogue parce que c'était une grande partie de son travail artistique, notamment à la fin de sa vie. Elle a enseigné jusque vraiment la toute fin de sa vie. En fait, j'ai fréquenté Elsa et sa danse avec un corps assez vieux et vieillissant. Elle était assise, accompagnée d'un batteur, Jean-Yves Colson, ou d'un percussionniste, Bruno Besnainou. Du coup, la transmission de la danse se faisait par les pairs. T'étais tout le temps en duo, on était sur des grandes lignes de danse. Et c'était la fréquentation des danseurs qui étaient là parfois depuis 30 ans avec Elsa qui faisait que tu te voyais recevoir des danses qui sont les mêmes depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Et donc, tu penses que ça a changé concrètement ton rapport à ton corps ? Est-ce que c'était le mélange donc danse contemporaine, danse africaine que tu découvrais ?
Le mélange de la danse africaine et de la danse contemporaine, c'était très nouveau pour moi. Et c'était aussi assez nouveau la manière dont elle le faisait, elle. C'était que toute sa danse venait du pas. One step, c'était vraiment un pas après l'autre. Et la marche était fondamentale dans l'installation de sa danse. Toutes ses danses, en fait, commençaient par la marche. Tous les échauffements étaient liés à la marche. Et c'est aussi une manière de redécouvrir son corps que de remarcher, en fait. Enfin, c'est tellement une aventure pour un nourrisson d'accéder à la posture debout et à la marche que c'est comme si tu le revisitais, en fait, dans cette danse-là. Et puis moi, j'ai commencé la danse avant d'avoir des enfants, donc avant cette grande transformation du corps que sont les grossesses et puis le postpartum et puis l'accouchement et tout ça. Et ouais, je sais pas, ça a bougé plein de choses, quoi. Et puis du coup, en fait, je faisais déjà de la radio quotidiennement, ce qui est une activité physique en soi marathonienne. Et ça m'a beaucoup accompagnée dans la transformation de mon corps à la radio, la respiration. Tu vois, là, je me tiens très mal, mais normalement, en fait, ça joue beaucoup en fait, sur ta concentration, sur ta capacité de présence et d'écoute. Mmh. Et ouais, j'ai acquis plein de choses pour ma vie, pour tout.
Mmh. Ouais, j'aime beaucoup que tu choisisses Elsa Voliaston et que tout de suite, tu parles de la transmission de ce qu'elle a... Mmh. De ce qu'elle t'a donné, de ce qu'elle vous a donné dans les cours, etc. On va écouter sa voix dans un extrait du film qui s'appelle « Le son d'Elsa », réalisé par Yves Cormelio en 2013.
Pour déclencher leur imagination, j'ai dit « Vous avez une petite flamme. Bougez, une toute petite flamme. Mais il faut le maintenir parce qu'il y a le vent, il y a tout autour. Donc il faut être attentif à cette petite flamme. Et petit à petit, ça devient... le feu. Mais au début, c'est une toute petite flamme, comme une bougie. C'est un moment, s'il y a le vent, il faut fermer le courant d'air pour éteindre. Elle est fragile. Mais petit à petit, elle devient tellement puissante et il faut qu'elle reste quoi qu'il arrive. Quand on ajoute le rythme de pied, il faut que... parce que c'est parallèlement. Ça va continuer et le pas va continuer. Il ne faut pas que ce n'est pas... non, c'est... Et donc, ça demande un effort. Et c'est pour ça que je suis fière de Myriam. Parce que, comme elle était craintive au départ, elle voulait pas laisser ouvrir cet immense espace. Et elle se détend. Et plus qu'elle détend, on se rend compte que... c'est basse et tous ces gestes, c'est humble. Et donc, il faut maintenir cet battement. Et à un moment, il faut accélérer.
J'adore à la fois ce qu'elle dit sur la petite flamme qui devient le feu et le fait qu'on ait un espace immense en nous à ouvrir. Et c'est aussi plus simple quand on voit le film... mais on voit des femmes qui dansent et qui lâchent, on dirait, complètement prises. Mmh. Et le corps se libère. Mmh. Est-ce que toi, t'es passée par là? Et est-ce que chaque jour, t'as la petite flamme qui devient le feu?
Ben, en tout cas, t'entends bien. Et c'est là qu'on voit aussi la préciosité des archives, qu'elles soient filmiques ou qu'elles soient radiophoniques. C'est que Elsa, elle est plus là, elle vient de mourir. Et hop, avec sa voix, en deux secondes, avec la musique, du cours, tout ce qu'elle transmet peut être de nouveau transmis. Et c'est assez immédiat. Moi, ça me donne immédiatement envie d'aller danser. J'ai dansé pendant 12 ans dans ce studio avec les danseurs et les danseuses, les élèves. Et je suis passée par là, mais en fait, 12 ans, c'est court. J'aurais pu continuer des années et des années pour atteindre ce que tu dis de l'ouverture. C'est-à-dire que j'ai vécu des moments d'ouverture, mais... quand elle parle de Myriam, je vois très bien qui elle désigne. Ouvrir le sternum, c'est dépasser une peur. En fait, je pense que ça peut être assez similaire avec le rapport au souffle, à la parole, à la sexualité, à la jouissance. C'est qu'en fait, les endroits d'ouverture de notre corps, c'est pas que simple d'y aller, quoi. Et même si ce qui nous est promis est beau et ouvert et plein de feu, en fait, c'est pas si simple. Et donc, je dirais, je sais pas si j'ai atteint tout ce que je pouvait atteindre dans la... C'est sûr que non, d'ailleurs, dans la danse d'Elsa. Mais ça m'a mis sur plein de chemins, en tout cas, ça, c'est certain. Et par contre, t'entends bien que dans ce qu'elle dit, évidemment qu'elle parle de la danse, que c'est sa pratique, mais t'entends bien comment on peut immédiatement le traduire pour tout. C'est-à-dire que quand elle dit « on a une petite flamme, elle est là, elle est tout le temps là, il faut la garder parce qu'il y a plein de vent », ça peut être plein de choses.
Tu vois, enfin, c'est une manière de vivre presque.
Exactement. Ouais. Tu vois, ça peut être tout. Ça peut être, tu peux dire cette petite flamme-là, c'est ta joie de vivre. Tu vois, t'as plein de choses pour éteindre la joie de vivre dans la vie. Cette petite flamme-là, ça peut être ta concentration. Moi, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Ça peut être l'écoute. Et donc, tout ce que dit Elsa là, tu peux le déplacer dans le champ de mon métier qui est la radio tous les jours. Tu peux le déplacer dans ta présence aux autres, dans ta présence au monde. C'est très évident.
C'est magnifique, je trouve. On continue, merci beaucoup, avec ton coup de cœur musical. Après le rythme, les pas, le feu, mais aussi la musique, on continue avec ton coup de cœur musical. Donc c'est un morceau qui, en ce moment, te touche, que tu as eu envie de partager dans l'émission. Est-ce qu'avant qu'on l'écoute, tu peux nous dire le nom de l'artiste et le titre de ce morceau ?
Alors, l'artiste, c'est Warda Al Jazeera et le nom, c'est Aramt Ahebbak, qui est sorti en 1993.
Est-ce que Marie, tu peux nous dire pourquoi ce choix-là ?
J'ai essayé de répondre à tes questions de choix d'œuvres, de choix d'artistes très au présent, tu vois, sans m'encombrer de savoir si ça devait raconter quelque chose comme ça sur la longueur et tout. Vraiment, ok, qu'est-ce qui me venait ? Et il se trouve qu'on avait été ensemble avec d'autres amis à une soirée qui s'appelle Beyrouth Electro Parade, dans le contexte politique qu'on connaît, même si cette soirée, elle était prévue de longue date, c'était la Bellevilloise, et c'était hyper beau, hyper joyeux. Il y avait marqué, il y avait une grande inscription lumineuse en arabe dans un des dance floors, quoi. Et j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, mais c'est quoi ? Parce que j'étais là de... Voilà. Et je crois que la réponse de cette femme, c'était quelque chose comme l'amour est la solution, voilà. Et en fait... Ce soir-là, au cœur de l'hiver, donc 2026, c'était pas du tout rien, en fait, d'afficher ça et d'être plein de communautés différentes, vivant à Paris, et de venir danser sur des sons vraiment différents, certes de l'électro-libanaise, mais pas que. Et il y a cette chanson qui a joué. Je sais pas si tu t'en souviens.
Je m'en rappelle pas.
Et toi, t'as dansé, quoi. T'étais la reine. Hein. Ouais.
Mais pourtant, c'est vrai que quand tu m'as dit ce choix et que je l'ai écouté, je me suis dit, mais je connais cette chanson.
Ouais. Je sais pas si celles et ceux qui t'écoutent le savent, mais tu danses trop bien. Enfin, t'as une espèce de grande lumière, quoi, sur le dance floor. C'est un truc qui est présent chez toi, qui est, et aussi qui nous a réunis en dehors de la radio. la joie de danser ensemble, la joie très simple en fait d'être sur un dance floor et juste de voir l'autre sourire, de voir l'autre danser. Et donc je me souviens que ce soir-là, t'étais sur ce son-là et peut-être c'était genre pas très longtemps avant qu'on doive rentrer parce qu'on était tous éclatés de fatigue. Et voilà, j'ai vraiment l'image de toi en train de danser. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'avais envie de jouer ce morceau. L'autre chose, c'était aussi pour dire à quel point il y a, je pense, tout un pan de la musique orientale, du raï, du shahabi, de la musique venue du Maghreb. Là, c'est les années 90, mais qui me touche. C'est des gammes de notes qui me vont directement droit au cœur. Et je dirais qu'il n'y a à la fois pas d'explication à ça, puis peut-être des explications de sociabilisation de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse, où j'ai grandi dans un endroit où j'étais entourée de beaucoup, beaucoup de familles qui venaient du Maghreb. Et donc, cette musique, elle a été aussi dans mon quotidien, en fait. Elle fait partie des musiques qui m'ont entourée, quoi, au même titre que le R&B des années 90. Et donc, mon cœur bat fort, en fait, pour ces musiques-là. Et puis, je regardais par curiosité... la traduction des paroles. Et c'est une meuf qui dit, franchement, tu sais quoi, je me casse, en fait.
J'ai vu ça aussi. Et j'adore, en fait.
Je me casse, en fait. Ouais. Tu m'aimes pas. Moi, je t'aime fort, mais en fait, je bouge, dégage, tu m'as fait du mal.
Elle lui dit même, ne m'aime pas. Arrête
ne m'aime
de m'aimer.
Pas, exactement. Ne m'aime pas, ne m'inquiète pas, ne me regarde plus. Tu t'as fait du tort à mon cœur. Et, ouais. et moi, tu m'as laissé au milieu de la route et tu dis que tu es innocent, etc. Et je me suis dit, ah, bah tiens, ça me fait plaisir en plus qu'on soit là à danser sur cette musique-là, sur la voix d'une femme qui décide qu'elle a, en fait, elle a pas le temps d'être pas bien aimée, quoi. Et que, puis elle a du panache en le faisant, tu vois. Ça claque, il y a la darbouka qui est derrière et tout.
J'adore.
Elle a une voix trop belle.
Mais je trouve que ce panache et ce charisme dont tu parles, on le ressent par les oreilles et donc notre corps va se mettre en mouvement et va un peu suivre cette lumière-là qui est dans sa voix et dans le rythme de la musique. Et peut-être que c'est ça qui nous fait autant aimer la danse. C'est qu'en fait, peut-être même on se transcende avec les mots qu'on perçoit. Elle raconte aussi une histoire. Enfin, il y a des chansons et de musique orientale. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, qui durent des heures. En fait, c'est comme des fictions sonores. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas... J'étais avec ma mamie au Maroc il n'y a pas longtemps. Elle me dit, il ne faut surtout pas arrêter. Alors que ça faisait déjà une demi-heure qu'on écoutait le même morceau, tu vois. Donc, il y a ce truc...
J'ai un souvenir monumental. Je ne saurais pas le dater, mais peut-être que, en fait, si je fais des calculs rapides, mais je dirais que j'ai une vingtaine... Ça fait peut-être 20 ans, quoi. C'était au bar du marché à Montreuil, à l'époque que je vivais à Montreuil. Il y avait une grande, grande, grande musicienne qui s'appelle Shehra Limiti, qui est morte depuis. Et tu sais, vraiment, elle était au fond du café, quoi. Et c'était ça, tu sais, c'était des morceaux immenses, hyper longs. Une vieille dame avec un bagou, une voix sublime. Il y avait quelque chose où elle te tenait par le récit, par sa voix. Mmh. Ouais, par une manière de faire claquer aussi certains mots, certains rythmes. Et qui te donne envie de clac, clac avec les épaules, tu vois. Mmh. Et ça, c'est très libérateur. Mmh.
Oui, et c'est magnifique aussi, je trouve, une espèce de contraste entre une histoire comme un peu... On sent qu'il y a plein d'émotions dans la voix, une espèce de complainte et à la fois quelque chose qui a été douloureux ou en tout cas grave, d'important dans la vie de la chanteuse. Mmh. Et à la fois, le soleil, on en a déjà parlé, mais que ça dégage de, en fait, on écoute ça, on a envie de faire la fête, on a envie de bouger sur sa voix.
Regarde, on est obligé de parler de cette lumière un peu paradoxale, parce que j'ai commencé par signaler cette soirée qui a eu lieu à la Bellevilloise au milieu de l'hiver en 2026. Et donc, en fait, on est là, on est en train de danser, on est en train de bouger nos corps, on est en train de sourire. Et exactement au même moment, il y a Gaza, il y a Beyrouth, il y a l'Iran, il y a le Congo. Enfin, bref, il y a tellement d'endroits qui sont, le Soudan, qui sont blessés, qui sont martyrisés, qui sont génocidés. Et donc, en fait, tu as ça dans ton corps au moment où tu danses. Tu as ça dans ton corps tout le temps. Mais c'est forcément une lumière paradoxale. Tu vois, peut-être encore plus quand tu t'approches de ces musiques-là, ce soir-là en particulier. Mais je crois que c'est pas indécent, tu vois. Je crois que c'est pas du tout indécent. Je pense qu'il y a des vitalités qui s'expriment. Et bon, voilà, c'est évidemment super confortable de le faire à la Bellevilloise à Paris. C'est très confortable même de le dire. Mais néanmoins, c'est une manière d'être ensemble fort quand même.
Merci, on continue avec ton partage de texte. Marie, l'étape centrale de l'émission, c'est le partage d'un texte que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu ce texte avant de nous lire le passage ?
Bien sûr, d'autant que j'ai décidé de vous lire la fin. C'est un extrait que j'ai choisi dans Officier Radio, qui est le dernier texte que j'ai publié. Il est sorti en août 2025 aux éditions Sabine Vespizer. Un texte où je réfléchis à partir d'un accident maritime qui a eu lieu en juin 1979 à Civitavecchia, dans la mer Tyrrhénéenne, pas très loin de Rome. C'est un bateau de la marine marchande qui rencontre un pétrolier italien, qui se heurte. Le pétrolier brûle et le bateau français brûle pour une partie et une grande partie de l'équipage meurt. À l'intérieur de cet équipage, il y a mon oncle, un des frères de mon père, qui est officier radio et qui meurt aussi dans cet accident. Et donc, c'est un roman qui part de cet événement historique, de cet horrible accident, des résonances que ça a pu avoir dans, évidemment, ma famille, mon père, mon cousin, ma tante, puis mon frère, moi, enfin notre famille, quoi. Et j'en viens au motif de la disparition, parce qu'en fait, ces hommes qui sont morts, pendant très longtemps, ils ont été portés disparus, parce qu'il n'y avait pas de cadavres. Pour certains, mais très peu, ils étaient tombés à l'eau, et pour d'autres, ils ont été réduits en cendres. Et c'est tout un roman qui réfléchit aux traces que ce mot-là, que ce motif-là, que l'absence de corps a pu laisser dans mon imaginaire et dans ma vie. Je Merci. Me lance.
Ouais.
Le chapitre s'appelle « Œil habitué au brouillard ». C'était les derniers sentiers. J'avais plus ou moins décidé que mon livre avait trouvé sa forme. Je l'avais écrit entre la vie, je ne sais pas où, comme d'habitude. Derrière une porte ni ouverte ni fermée. Le faux jour du faux réveillon de Noël, vrai jour de l'anniversaire de mon père, fausse veille de son vrai anniversaire, j'entrepris de marcher très longtemps depuis la pointe du Cap jusqu'au fort. Il régnait depuis une semaine un inhabituel et épais brouillard sur la Bretagne. Un brouillard qui recomposait le paysage. Variation de blanc laiteux et turquoise pâle. J'entendais bien la mer, mais ne distinguais rien. Je voyais à peine mes pieds frapper les roches de la lande, le reste demeurait indistinct. Sur mon dos, je portais la fille de mon frère, et nous allions comme ça jusqu'au fort, elle endormie, moi suivant les sentiers rendus étrangers par la brume. Visibilité nulle, pouvait-on lire sur tous les rapports qui rendaient compte de l'accident du 26 juin 1979. C'est difficile à se figurer, une visibilité nulle en mer. Et là, je pouvais, je ne voyais rien. Rien du tout. Je marchais à l'aveugle. Le son seul me révélait les alentours. De même que le son du choc entre les deux bateaux avait révélé l'abordage aux marins de l'Emmanuel Delmas, de même je m'assurais de là où j'étais par le seul bruit de l'eau. On ne voyait rien ce matin-là au large de Civitavecchia. C'est toujours comme ça que l'on commençait de raconter cette histoire. 45 ans plus tard, on ne voyait toujours rien et c'est comme ça que j'allais terminer de la dire. J'avais adoré un livre paru cet automne-là. Une femme allait à la rencontre de l'histoire de sa mère. Vers la fin du texte, elle citait un autre livre dont le titre, selon elle, était mal traduit. Elle retraduisait ainsi « Un œil adapté à la pénombre ». J'adorais le nouveau titre. J'adorais l'idée que l'on vive, marche, écrive, en habituant son œil à l'obscurité. Physiquement, nos pupilles mettent 20 minutes à se dilater pour distinguer les détails dans le noir complet. Google était incapable de me dire ce qu'il en était par tant de brouillard. Je continuais de marcher. Je croyais qu'il fallait éclaircir les choses pour vivre mieux, les démêler, y trouver du sens, les comprendre. Et peut-être n'en avais-je pas fini avec ça. C'est une passion puissante de reposer les équations et désosser les théorèmes. C'est ma façon d'être au monde depuis si longtemps. N'empêche que je marche, visibilité nulle, dans le brouillard le plus épais, sans le moindre désir d'y disparaître, sans le moindre désir d'y apparaître, avec dans le dos une enfant qui n'est pas la mienne. Je marche dans un brouillard plus épais que tous les brouillards jamais rencontrés, entre deux fausses dates de Noël et d'anniversaire, sans nouvelles de l'amie italienne chargée de récupérer pour moi la sentence du procès de 1985. Et plus je marche, entre le cap et le fort, plus le brouillard semble s'épaissir. J'écoute le bruit de la mer, j'entends tout, je ne vois rien. C'est au brouillard que mon œil s'habitue.
Merci beaucoup Marie. Tu parlais de la marche tout à l'heure et même le son, la visibilité. Faites pas voir, enfin, on est à la radio.
Ouais, on est grave à la radio. Hein.
Officier radio.
Ouais, absolument.
Merci. Donc on continue tout de suite avec ton choix d'œuvre phare. Donc c'est parmi plein d'œuvres possibles, parmi tous les types d'art, que tu as choisi une œuvre qui peut être complètement liée à en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Carrément. C'est carrément lié à en ce moment, en fait, à plus d'un titre. C'est lié à en ce moment, parce que je l'ai vu il y a quelques jours, c'est le film Dao d'Alain Gomis. Et c'est aussi lié à en ce moment parce que je suis quand même sortie, j'étais très émue et je me suis dit, quand même, je vois ça un an avant la présidentielle en France. J'ai trouvé ça impossible de détacher cette grande fresque qui dure 3h20 du contexte politique dans lequel on se trouve, de la droitisation des esprits, d'une libération toujours plus grande des paroles racistes et conservatrices. Et c'est un film qui dit tellement ce qu'est la France, entre autres choses, hein. Il dit plein de choses. Hein. Mais il dit aussi tellement ce qu'est la France. Ce sont deux cérémonies entremêlées. Une cérémonie de mariage qui a lieu en France et qui unit un homme noir et une femme métisse. Et une cérémonie de deuil qui vient après les funérailles, qui a lieu en Guinée et à laquelle viennent assister des enfants pourpart installés en France. Donc ça dit plein de choses, ça dit un rapport à ces traditions-là, ça dit une possibilité de les filmer, ça les montre aussi, ça nous permet de les vivre dans la longueur, ça dit une terre, ça dit l'émotion profonde qu'a une jeune femme de découvrir ou redécouvrir le village de son grand-père. Voilà, il filme de manière si délicate des liens entre une famille de cinéma qu'il a patiemment recomposé. Et puis ça dit un mariage en France où tu vois que font la fête et que chantent des hommes et des femmes qui n'ont pas tous la même couleur de peau, qui sont pour une part et une grande part issus de l'histoire de l'immigration qui compose la France, qui en est la veine, quoi, la veine la plus belle, la plus importante, la plus glorieuse. Je vois pas comment c'est même possible rationnellement de contester ça encore et encore. Ça apparaît, c'est tellement criant dans ce film, c'est tellement puissant. Et il a l'intelligence, pour moi, une des trouvailles formelles artistiques de ce film, c'est qu'il garde des images du casting. Tu sais pas si c'est des vraies fausses images, mais peu importe, on n'a qu'à dire que c'est des vraies images du casting, où il interview principalement des femmes sur leur possibilité de jouer dans son film et leur demande, Alain Gomis, tu voudrais jouer quoi ? Et puis comment ça résonne avec ta propre histoire ? Et c'est un face-à-face un peu plus brut, un peu moins pris dans la fiction, dans l'éclairage du cinéma de fiction. Et c'est tellement malin, quoi, parce que ces femmes, en fait, avant d'être filmées, avant de représenter, avant d'être des personnages, elles apparaissent devant nous comme des femmes avec des corps qui ont été prises dans des situations politiques, notamment de violence, de racisme, mais aussi de vie, de transmission, de résistance, de beauté, de peau, de yeux, de regard et tout. Et du coup, c'est complexe, quoi, et en fait, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut des récits complexes, il nous faut des récits composés, il nous faut des récits pluriels. Et j'ai beaucoup pleuré. Et en ce moment, je me dis ça, je me dis, je sais pas, dans ce film-là, ou dans des livres que j'ai lus, il y a des choses que je pleure et je me dis, tiens, en tout cas, je me demande souvent qu'est-ce que je pleure quand je pleure. Ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on pleure, quoi. Qu'est-ce que je pleure intimement, qu'est-ce qu'on pleure collectivement. On a de quoi pleurer de la violence coloniale, de la violence postcoloniale, de l'histoire de l'esclavage,
du patriarcat aussi, dans ce film, ça se ressent beaucoup, je trouve. On écoute la bande-annonce, comme ça on entend un petit peu le côté éclectique qui est présent même dans la bande-annonce.
Okay.
Je m'appelle Gloria, j'ai 50 ans, j'ai une fille. Pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Dis-moi. Bienvenue dans ton village.
Wow, c'est une jacquée. Tout par génération et continental.
Eh bien, tu sais que ça aura pu être la nôtre.
Maintenant, je suis heureuse. Ça se voit à peine. Hein. Ça commence à peine.
En fait, quand j'ai d'abord entendu cette bande-annonce et vu cette bande-annonce, au début, je me disais « Ok, ça a l'air d'être un film sur l'espoir, quoi. » Et j'avais ce mot « espoir », tu vois. Après, je suis allée voir le film. Et j'ai beaucoup pleuré aussi. Et je me suis dit, en fait, le mot, c'est amour. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, mais absolument partout, quoi. Enfin...
Et du manque d'amour aussi, hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'amour dans tout ce qui peut regrouper. Et donc, oui, on pleure parce qu'il y a aussi manque d'amour, mais il y a aussi... Enfin, ouais. Non, mais je me dis aussi qu'il y a un mot que tu prononces beaucoup, qui est la vitalité. Ouais. Et j'ai l'impression, je ne sais pas exactement et qu'est-ce que tu mets à chaque fois derrière ce mot vitalité, mais ce film-là, pour le coup... Amour, espoir, tout ce que tu veux, il y a quand même vitalité qui est hyper présent. Et je me demande si c'est pas pour ça que tu l'as choisi
en ce
moment.
C'est possible. Bah, c'est possible. D'ailleurs, j'étais en train de chercher le principe d'AO. Tu sais, c'est un principe de circulation. Il le met au début dans un carton, comme étant quelque chose qui circule entre les forces de vie. Et c'est vrai que c'est amour. D'ailleurs, on entendait, c'est vraiment une reine, hein, cette actrice non professionnelle.
C'est la cousine d'Alain Gomis, je crois.
Cathy Correa.
Ouais.
Reine absolue de ce film. Et en effet, il y a quelque chose où on l'entend dire là, à demi-mot, « Ouais, je suis pas encore complètement heureuse. » En tout cas, je suis heureuse. Et ça commence à se voir. Mm-hmm. Elle parle avec Samir Ghesmi, qui lui revient du passé. Tu vois, ils ont eu cette grande histoire d'amour. Tu sens qu'il a merdé, tu vois. Mm-hmm. Tu sens qu'il a pas été à la hauteur. Mm-hmm. Et c'est tant pis pour lui, tu vois. Ça rejoint, en fait, la chanson de Warda. C'est que... Et tu sens qu'elle en a bavé de fou, cette Gloria, elle s'appelle Gloria, tu vois. Et qu'aujourd'hui, elle choisit sa fille, elle choisit la vie. Tu sais, même si c'est galère, même si c'est bricolé, même si c'est pas immédiat, oui, ça ne se voit pas tout de suite, mais elle choisit l'homme qui est incarné par Nicolas Bouchaud et qui a une présence comme ça, un peu gauche, mais hyper gracieuse dans l'assemblée. Mmh. Il est là... Gomis, il filme deux hommes qui regardent une femme avec amour, quoi. L'un qui regrette de l'avoir mal aimée et un qui va essayer de bien l'aimer. Mmh. Ça m'a aussi fait dire qu'on pouvait, une façon de raconter Dao, sans trop le réduire, mais c'est l'histoire d'amour foireuse, foirée, parfois mal aimante, mais aussi avec de l'amour entre ce pays, la France, et tous ces gens qui sont venus pour vivre une meilleure vie ou alors qui sont venus parce qu'on les a obligés de venir ou qui sont venus juste pour bâtir ce pays qui leur a tellement mal rendu la force de travail qu'ils ont mise, la puissance de liens qu'ils ont investi dans le fait de faire des enfants, de construire des maisons et tout. Ça m'a aussi laissé un goût amer à suivre, quoi.
Ouais, à suivre. Mais comme quoi, enfin, là, je pense au fait qu'on ait eu peut-être des tornades d'émotions pendant ce film. Mais qu'on a beaucoup pensé. Enfin, c'est pas du
grave.
Tout déconnecté, quoi.
Absolument. Mmh. Et ça, tu vois, tu disais que je prononce beaucoup le mot de vitalité, mais par exemple, pour moi, la vitalité, c'est ce mélange-là.
Ouais.
C'est le mélange de ton corps qui est pris, ton émotion qui est engagée et ton cerveau qui fonctionne. Mmh. Ça, pour moi, c'est la vitalité, tu vois.
Et pour moi, c'est très lié au féminin aussi.
Ben, j'ose le défendre comme ça maintenant. Tu vois, je ne sais pas si j'aurais pu l'affirmer comme ça, mais il n'y a pas très longtemps, une de mes filles m'a dit « Ouais, tiens, viens, on fait un jeu et tout, tu peux te réincarner. Tu perds tout ce que tu veux. » Et ben, j'ai vraiment pris sa question au sérieux. Et l'autre vie que j'avais envie de vivre, si j'avais une vie supplémentaire, je me dirais « Ok, let's go pour une autre vie de femme. » Parce que je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus, quoi, comme condition d'être au monde. Et j'étais là, genre, j'hésitais, femme, oiseau. Et vraiment, je me suis dit, ouais, non. Pourtant, c'est galère, tu vois. Bien sûr, il y a plein de galères. Et je dis ça, en plus, vraiment, avec une pensée féministe que j'espère aiguiser de jour en jour et tout. Mais pourtant, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus.
Mmh. Bah, sinon, femme, oiseau.
Ou sinon, femme, oiseau. Mais ma fille, elle me donnait pas cette possibilité. Ah, okay. Elle me disait pas.
Elle avait
plus.
Ses règles.
Ouais, voilà, quand même.
Merci. On continue et on termine avec ta bribe de phrase.
Ah oui, bah tiens.
Comme chaque mois, Marie, l'émission se termine avec une phrase que tu as attrapée au vol.
Génial,
on en revient au vol.
J'adore.
Ça peut être dans l'espace public, l'espace privé. Est-ce que tu peux nous révéler cette phrase, mais peut-être avant nous dire un petit peu le contexte?
Ouais, absolument. On se promène en famille, en Bretagne. On est en train de discuter du fait que quelqu'un est venu me voir après une rencontre autour d'Officier Radio pour me parler de ce que ça avait réveillé chez elle, quoi. Parce que c'était en lien avec une famille de marins, on était en Bretagne et tout. Et ma fille vient me dire « Ah, mais Mais pourquoi elle vient de parler? T'es pas une star, franchement. En gros, pourquoi elle nous dérange en fait? Pourquoi elle vient? Bref. Bah parce que ça fait référence à sa vie. Et ma fille vient me dire, bah ouais, je m'intéresse à ta vie. Et ça me permet de lui dire, moi aussi, je m'intéresse à ta vie. Et la suite, je dis, alors qu'est-ce que tu penses de ma vie? Elle dit, ça va, c'est bien. Tourmentée parfois. Et j'adore.
Wow.
C'est tellement incroyable. Mm. Mais c'est vrai que ça, ça m'est resté. Je m'intéresse à ta vie. Mm. Tu vois, d'une enfant pour son parent. C'est beau quand même.
C'est super beau.
Ouais.
Et tu finis l'émission avec le mot vie.
Ouais.
Et avec ta fille. Enfin, ouais. C'est quand même
Yalla.
Trop beau. Ouais. Merci beaucoup, Marie.
Merci beaucoup, Louisa. C'était un plaisir d'être avec toi.
C'était trop, trop bien. Tu as clos la saison 5 de
Allez,
l'émission,
ce qui
n'est pas rien. Donc, je pense qu'on peut aller boire des verres et danser.
Allez,
pour
danser.
L'occasion.
Ouais, carrément.
Je remercie aussi Rosalie Berne à la réalisation, qui est là depuis quelques années aussi. Et on a le plaisir de vous annoncer qu'il y aura une saison 6, donc l'année prochaine. Voilà, on entend plein d'applaudissements avec les doigts. À très vite sur le 93.9 et quand vous voulez en podcast sur les plateformes d'écoute et le site de Radio Campus Paris.